Dans le nouveau numéro de l'Arche, un dossier complet sur les Kurdes, les Juifs et Israël. Le témoignage d'Elisabeth Chemla, seule avec Jacques Chirac, au cimetière juif d'Alger. La rencontre avec un prix Nobel et un médaillé Fields à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et un texte inédit d'Isaac Bashevis-Singer.
Abonnez-vous à l'Arche, 6 numéros, 50 euros, sur notre site larchemag.fr ou par courrier en adressant votre chèque à l'Arche, 39 rue Broca, 75 005, Paris.
Dans tous les bons kiosques, l'Arche, le magazine qui vous ressemble.
RCJ 94-8, un média du Fonds social juif unifié.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous suivre sur le 94.8 ou peut-être sur notre application mobile disponible partout dans le monde et à toute heure. Mais pour le moment, nous sommes le mardi 25 février, il est 8h et tout de suite les titres du journal.
Le journal avec Best Fenêtre. Depuis 10 ans à votre service. Fenêtre, porte-volet au meilleur prix. 01 43 61 31 16.
RCJ.
Le journal Marika Mathieu.
Les affrontements entre Israël et le djihad islamique se poursuivent et font craindre une escalade militaire à moins d'une semaine des élections législatives. État des lieux à suivre en direct avec Gérard Benamou depuis Tel Aviv. L'offensive dans la région d'Idleb en Syrie continue et l'ONU indique craindre un bain de sang alors que la ligne de front se rapproche des camps où près d'un million de personnes ont trouvé refuge. Pandémie, le mot est lâché par le directeur de l'OMS. Le coronavirus se propage dans le monde, les bourses mondiales dégringolent et les frontières se ferment jusqu'en Europe où l'Italie du Nord est placée à l'isolement, y compris pour ses matchs de foot. En France, cependant, on ne compte plus à ce jour un seul malade. Dans cette édition, nous retrouvons également l'invité de la rédaction, Nona Mayer, politiste et spécialiste des droites radicales, qui revient sur la montée en puissance de l'extrême droite en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe. Les affrontements entre le djihad islamique et Israël se sont poursuivis cette nuit, avec des échanges de tirs dans la bande de Gaza, malgré les appels à cesser les hostilités. Des bombardements qui font craindre une nouvelle escalade militaire à moins d'une semaine des législatives israéliennes. Nous faisons le point tout de suite sur ces craintes avec notre correspondant en direct de Tel Aviv, Gérard Benamou.
Le direct d'Israël vous est offert par Hort France, l'excellence pédagogique pour ses lycées, reconnue par Le Parisien et l'étudiant. Hort-France.fr, établissement sous contrat d'association.
Bonjour Gérard.
Bonjour Marika, bonjour à tous. Plus de 60 roquettes se sont abattues sur les villes du sud d'Israël, tirées par le djihad islamique à Gaza. Au-delà des frappes sévères de l'aviation israélienne en riposte sur des cibles militaires, d'entraînement des terroristes à Gaza, des appareils israéliens ont également visé des objectifs du djihad islamique en Syrie, au sud de Damas. Des sources syriennes officielles ont révélé que 6 terroristes avaient été éliminés, 2 appartenant au djihad islamique et 4 membres des gardiens de la révolution iranienne. Les infrastructures détruites servaient notamment à la fabrication de combustible pour les roquettes, ainsi que de centres de formation pour les terroristes du djihad islamique à Gaza et en Syrie. Par la suite, hier, un cessez-le-feu avait été annoncé après des efforts diplomatiques séparés, égyptiens et qataris. Il devait entrer en vigueur à 22h entre Israël et le djihad islamique, selon Al Jazeera. Une délégation tripartite du Hamas, du djihad islamique et du Fatah devait se rendre au Caire jeudi pour discuter de cet énième accord de cessez-le-feu. La nouvelle devait toutefois être démentie par la direction du djihad islamique à Gaza. Cependant, vers 23h hier, les tirs de roquettes ont cessé et Israël a interrompu ses frappes. Le djihad a fait connaître sa volonté de s'en tenir là, dans ses tirs sur Israël. Israël a décrété la fermeture de tous les points de passage avec la bande de Gaza jusqu'à nouvel ordre et clôt totalement les zones de pêche autorisées. Seuls les cas humanitaires se verront permis à traverser les points de passage. Un calme relatif est intervenu. Côté israélien, on ne cache pas la détermination à agir, y compris par une confrontation d'envergure en cas de poursuite de ces agressions qui, grâce au dôme de fer, n'ont pas fait de victimes, mais un blessé moyennement atteint et une quinzaine de blessés légers au sein de la population bombardée. La situation demeure très fragile cependant. À quelques jours seulement des élections, le chef d'état-major Aviv Kochavi a rendu compte d'un moment où tout, dit-il, peut basculer en déclarant Je ne sais pas encore si nous allons vers une accalmie ou vers une escalade. La situation est extrêmement fragile. Ce sont les heures qui viennent qui décideront, rappelant que par le passé, des situations de guerre se sont déclenchées suite à une escalade du type actuel. En attendant, dans cette incertitude, les écoles dans le sud du pays resteront fermées et c'est près de 60 000 élèves qui sont privés de cours. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est très vivement inquiété de la situation hier et a appelé à faire des efforts pour trouver un accord à deux États sans préciser sous quelle forme pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. La résolution a bénéficié du soutien américain. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
C'était le direct d'Israël avec le concours de l'ORT, l'excellence pédagogique pour ses lycées, reconnue par Le Parisien et l'étudiant. ORT-France.fr, établissement sous contrat d'association.
Et à noter également que le Conseil de sécurité de l'ONU, dans un rare moment d'unité, a appelé hier les parties associées au conflit israélo-palestinien à préserver la viabilité d'une solution à deux États en s'abstenant de tout acte contraire à cette perspective. Le texte présenté s'appuie, je cite, sur les résolutions pertinentes et précédentes de l'ONU en accord avec le droit international pour que deux États démocratiques, Israël et la Palestine, coexistent en paix et en sécurité dans des frontières reconnues. Les membres du Conseil expriment enfin leur grave préoccupation face à la violence contre les civils. RCJ, il est 8h06. Il est 8h06.
Les passagers à destination de Tel Aviv sont attendus en salle d'embarquement.
Avec ASL Airlines, voyagez à petit prix vers Tel Aviv depuis Paris Charles de Gaulle et payez votre vol en 3 fois avec votre carte Visa ou Mastercard. Pour profiter des prix canon d'ASL Airlines et du paiement en 3 fois par carte bancaire, réservez vite votre vol sur aslairlines.fr. Oui, aslairlines.fr. Offre soumise à conditions. ASL Airlines France, des avions au service des hommes.
Vous êtes les partenaires historiques de l'ORT. Pour accomplir sa mission, formez les jeunes de notre communauté. La nouvelle loi sur la taxe d'apprentissage et la formation professionnelle a bouleversé le mode de calcul et le financement de nos écoles. Plus que jamais, l'ORT France, votre partenaire historique, met à votre disposition son expertise en vous accompagnant pour vous aider à remplir vos obligations. Notre mission est noble. Votre soutien est indispensable. Continuez à contribuer au développement des écoles ORT France en nous versant le solde de la taxe d'apprentissage. Un seul numéro, 01 44 17 30 83 et ta75@ortefrance.fr.
L'info à l'étranger.
Le risque d'un bain de sang est imminent en Syrie selon l'ONU. Les combats dans le nord-ouest du pays se rapprochent en effet dangereusement selon l'organisation des campements où vivent environ 1 million de personnes déplacées. Une escalade du conflit qui amène l'ONU à revoir à la hausse son appel à financement pour faire face à cette crise de 330 millions à 500 millions de dollars. Les Nations Unies ont envoyé 1200 camions d'aide dans cette région en janvier et on en a encore envoyé 700 de plus depuis le début du mois de février. Mais selon le coordinateur adjoint de ces opérations humanitaire en Syrie, je cite, la réalité est que cela ne suffit pas. Nous arrivons à peine à répondre aux besoins des gens en rations alimentaires d'urgence, en tentes, en couvertures et en produits pour faire face à l'hiver. Selon lui, le personnel humanitaire est débordé. Des entrepôts ont été pillés et 77 hôpitaux et autres installations médicales ont été endommagées par les combats. Pas de répit pour la Libye. Les deux camps rivaux libyens, invités par l'ONU à des pourparlers politiques prévus demain à Genève, ont annoncé séparément avoir suspendu leur participation au dialogue, chacun invoquant des raisons différentes. Le Parlement, basé dans l'est du pays et qui appuie le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé qu'il ne participerait pas à cette réunion parce que la mission de l'ONU en Libye, la MANUL, n'a pas approuvé la totalité de ses 13 représentants. Et son rival, le Haut Conseil d'État, équivalent d'un Sénat qui soutient le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli, a indiqué de son côté qu'il préférait attendre qu'un progrès soit réalisé dans les négociations militaires. Interrogé par l'AFP, le porte-parole de la mission onusienne a indiqué néanmoins que la date du lancement du dialogue politique sera maintenue, mais les pourparlers s'annoncent donc très difficiles. Si les belligérants libyens ont élaboré un projet d'accord de cessez-le-feu qui doit permettre aux Nations Unies de surveiller le retour sûr des civils dans leur zone, hier devant l'ONU, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, a qualifié son adversaire, donc le maréchal Haftar, de criminel de guerre et dénoncé l'inaction internationale face aux violences dans son pays. En Algérie, la répression du IRA qui fêtait ses un an ce week-end. Le parquet a requis un an de prison ferme contre Fodil Boumala, opposant et figure emblématique du Irak, ce mouvement de contestation qui agite l'Algérie depuis un an. Il sera jugé notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire. Ex-journaliste de la télévision nationale et cofondateur en 2011 d'un mouvement citoyen d'opposition, Fodil Boumala a comparu dimanche durant 16 heures devant un tribunal d'une banlieue d'Alger qui a renvoyé son verdict au 1er mars selon le Comité national pour la libération des détenus. Dimanche, 20 manifestants, dont deux militants du Rassemblement Action Jeunesse, le RAJ, l'association citoyenne en pointe dans le Irak, ont été condamnés à Alger à des peines de 3 mois à 1 an ferme pour attroupement non armé, atteinte à l'intégrité du territoire et pour avoir refusé de présenter leurs papiers à un policier en civil. Hier, 21 contestataires ont écopé à leur tour d'une amende d'environ 380 euros, somme importante dans un pays où le salaire moyen est d'environ 300 euros pour attroupement non armé et trouble de l'ordre public. RCJ, il est 8h10.
Laissez votre empreinte sur la terre d'Israël. Vous l'avez rêvé ? Avec le KKL, ce sera une réalité. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. Vous pouvez léguer tout ou partie de votre patrimoine au KKL pour Israël. Appelez en toute discrétion et sans engagement le KKL, département Legs et Testament. Et demandez Linda, 01 42 86 88 88. KKL, 01 42 86 88 88.
Vous êtes les partenaires historiques de l'ORT. Pour accomplir sa mission, former les jeunes de notre communauté. La nouvelle loi sur la taxe d'apprentissage et la formation professionnelle a bouleversé le mode de calcul et le financement de nos écoles. Plus que jamais, l'ORT France, votre partenaire historique, met à votre disposition son expertise en vous accompagnant pour vous aider à remplir vos obligations. Notre mission est noble. Votre soutien est indispensable. Continuez à contribuer au développement des écoles ORT France en nous versant le solde de la taxe d'apprentissage. Un seul numéro, 01 44 17 30 83 et ta75@ortefrance.fr.
La suite du journal, Marika Mathieu.
Pandémie, le mot est lâché au sommet de l'OMS qui s'inquiète de la propagation du virus Covid-19 à l'échelle mondiale. Et on écoute tout de suite son directeur général qui s'est exprimé hier.
La soudaine augmentation de cas en Italie, en Iran et en Corée est profondément préoccupante. Il y a beaucoup de spéculations pour déterminer si cette augmentation signifie que cette épidémie est devenue une pandémie. Nous devons nous concentrer sur son endiguement tout en faisant notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandémie.
Et c'était donc le directeur général de l'OMS qui nous fait référence à une impressionnante donc flambée dans le monde des cas de contamination, entre autres en Italie, en Corée du Sud et en Iran, même si un déclin est désormais observable en Chine. 5 pays ont annoncé des premiers cas de contamination, l'Afghanistan, Bahreïn, le Koweït, l'Irak et Oman. Au total, plus d'une trentaine de pays sont désormais touchés, avec un bilan qui dépasse largement les 30 morts hors de Chine. Mais sans doute le plus inquiétant dans la propagation du virus sont les mesures de prévention et d'isolement qu'elle entraîne, sur fond de dégringolade des marchés financiers et d'un avenir désormais des plus incertains pour la puissance économique chinoise. Les bourses mondiales ont en effet plongé dans le rouge ces deux derniers jours à l'annonce de nouveaux pays touchés et font désormais craindre des répercussions macroéconomiques majeures. Et il n'y aura par exemple pas de pavillon chinois cette année à la grande foire du jouet de New York à cause du coronavirus. La production en Chine, de loin le plus grand fabricant de jouets au monde, a soudainement diminué depuis que l'activité y est paralysée par l'épidémie. En Europe, l'Italie, qui compte désormais 7 morts, est devenue le premier pays du continent à mettre en place un cordon sanitaire autour d'une dizaine de villes du Nord. Et les conséquences sont immédiates. Après l'écourtement du carnaval de Venise, les lignes de train bloquées, les salons professionnels annulés et le tourisme menacé, les matchs de foot sont désormais prévus comme devant se dérouler à huis clos. Et le tournage de Mission Impossible, cette super production américaine avec Tom Cruise en vedette, a été stoppé net. En France, plus aucun malade, mais là aussi des conséquences de la prévention et des mesures de confinement pour les voyageurs de retour de l'Italie voisine. Le secteur du tourisme francilien est lui aussi suspendu à l'évolution de l'épidémie. Paris, destination favorite des touristes chinois avec 1 million de visiteurs par an, plonge un ciel aussi dans la plus grande incertitude. RCJ, il est 8h14.
Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ?
Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03.
Certifié Calibat et RGE.
Les passagers à destination de Tel Aviv sont attendus en salle d'embarquement.
Avec ASL Airlines, voyagez à petit prix vers Tel Aviv depuis Paris Charles de Gaulle et payez votre vol en 3 fois avec votre carte Visa ou Mastercard. Pour profiter des prix canon d'ASL Airlines et du paiement en 3 fois par carte bancaire, réservez vite votre vol sur aslairlines.fr. Oui, aslairlines.fr, offre soumise à condition. ASL Airlines France, des avions au service des hommes.
Le reste de l'info en bref.
L'ex-mania de Hollywood Harvey Weinstein a été reconnu coupable hier d'agression sexuelle et de viol, mais a évité une condamnation pour les accusations les plus graves. Un verdict applaudi par le mouvement MeToo et plusieurs de ses accusatrices, qui est un verdict qui change le cours de l'histoire dans la lutte contre les violences sexuelles, selon le procureur de Manhattan. Harvey Weinstein encourt jusqu'à 25 ans de prison, mais son avocate a annoncé déjà qu'il ferait appel, car le combat n'était pas terminé. Un cyberactiviste arrêté à Moscou, un militant russe créateur d'une application très prisée qui permet aux utilisateurs d'envoyer des alertes lors d'arrestations, a été placé lui-même en détention provisoire pour, je cite, « détention de stupéfiants ». Le sort d'Alexandre Litriev, qui devrait rester derrière les barreaux au moins les 2 prochains mois, suscite l'inquiétude de ses soutiens, affirmant qu'il pourrait avoir été repéré en raison de son militantisme. En Arménie, le procès de l'ancien président Serge Sarkissian, accusé de détournement de fonds publics, doit débuter aujourd'hui dans la capitale arménienne, près de 2 ans après un soulèvement populaire qu'il avait chassé du pouvoir. Âgé de 65 ans, Serge Sarkissian a été inculpé en décembre et il lui est interdit de quitter le territoire de cette ancienne république soviétique du Caucase. En cas de condamnation, il risque jusqu'à 8 ans de prison. Interdiction de vendre des symboles nazis, mise à jour des programmes scolaires sur l'Holocauste, nomination d'un responsable dans chaque pays de l'Union européenne. L'association juive européenne a fait plusieurs propositions hier à Paris pour lutter contre l'antisémitisme. Cette association doit se réunir encore aujourd'hui en lien avec le consistoire central des responsables de communautés juives européennes, des hommes politiques et des diplomates pour présenter un plan d'action qu'elle espère voir adopté par le Parlement de chaque gouvernement européen, selon les termes du rabbin Menachem Margolin, président de l'EJA. Et au 8e jour d'examen, l'Assemblée nationale a adopté hier le premier des 65 articles du projet de loi de réforme des retraites, sous les applaudissements de la majorité qui continue à s'interroger sur un possible recours au 49-3. Non sans ironie, certains députés ont salué un moment historique. Cet article premier vise à décliner les principes généraux de la réforme, mais aussi à en fixer les objectifs sociaux et économiques. L'article insiste notamment sur les objectifs d'équité, avec la garantie qu'un euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, de lisibilité et de soutenabilité économique. L'Assemblée nationale a par ailleurs ajouté symboliquement un nouvel article à la réforme des retraites pour garantir aux enseignants des revalorisations salariales, une promesse que les oppositions jugent inconstitutionnelle avec un risque juridique énorme. Cette hausse avait été promise par le gouvernement pour assurer aux enseignants des pensions équivalentes à la situation actuelle. Et tout de suite, et dans un instant, la société allemande meurtrie par l'attentat perpétré à Hanau la semaine dernière, faisant 9 morts au nom de la haine et de la xénophobie, affronte ses responsabilités face au terrorisme d'extrême droite. La politiste Nona Mayer nous éclaire sur ces mouvances de la droite radicale qui refont surface partout en Europe.
Attention, offre vente flash 72 heures pour passer vos vacances de février sous le soleil des lattes. Partironisrael.com et les hôtels Fatal vous proposent un séjour vol direct plus 7 nuits d'hôtel à Eilat à partir de 699 € par personne en formule all inclusive. Départ en vol direct Paris-Eilat le mercredi 12 février. Attention, nombre de places très très limité. Renseignements et réservations sur partironisrael.com ou au 01 55 28 82 28. 01 55 28 82 28.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bain et déco.fr.
Jeudi 2 avril, Salle Gaveau, Hadassah France organise sa soirée de gala. Au programme, concert avec la violoniste Sarah Nemtanou, l'orchestre et le chœur PSL, la chanteuse de jazz Isabelle Georges avec Frédéric Steinbrink et le chœur Mayan de Tel Aviv. Informations et réservations sur hadassah.fr ou au 01 53 42 67 06. 01 53 42 67 06. Les bénéfices seront reversés à la recherche médicale franco-israélienne avec le CHU Hadassah de Jérusalem.
L'invité de la rédaction.
Selon le quotidien allemand Der Spiegel, l'Allemagne doit faire face à ses démons et pointe la résurgence, mais aussi le déni de l'activisme néo-nazi. On écoute tout de suite la politiste Nona Mayer, directrice de recherche émérite au CNRS et rattachée au Centre d'études européennes de Sciences Po, sur cette prise de conscience qui agite l'Allemagne. A-t-elle, oui ou non, un problème nazi ?
Il ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu des vagues successives d'émergence de partis néo-nazis en Allemagne. On a appelé, certains chercheurs allemands ont appelé ça une pathologie normale de l'Allemagne et qui disparaissait aussi vite. Quant aux agressions xénophobes, ce n'est pas la première fois, hélas. Si on se replace au moment de la réunification allemande, en 92-93, on a eu énormément d'agressions contre des foyers, contre des Vietnamiens, contre des Turcs. Donc c'est quelque chose qui revient. Mais c'est en train de prendre de l'importance ces derniers temps, surtout depuis 2015, depuis la crise des réfugiés, parce qu'on a à la fois cela qui entraîne des peurs, 1 million de réfugiés, qu'est-ce qu'on va en faire, et une forme de décomposition de la classe politique, d'érosion, qui n'est pas du tout spécifique à l'Allemagne. Alors bien sûr, l'Allemagne, c'est plus grave, parce que c'est l'Allemagne, parce qu'il y a eu l'Holocauste. Symboliquement, c'est beaucoup plus grave. Ça me semble un peu dur de dire que les pouvoirs publics n'ont rien fait. Au contraire, au lendemain de la guerre, l'Allemagne a créé un office fédéral de protection de la Constitution où elle traquait tous les extrémismes de droite et de gauche. Peut-être qu'elle n'a pas assez fait attention ces dernières années à la montée de ces extrêmes droites. Mais enfin, elle a fait plusieurs coups de filet. Donc, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de spécifique qui est la montée de ces néo-nazis. Et ce qui me semble même un peu plus grave, c'est qu'on va parler, je pense, de l'AFD, de l'Alternative pour l'Allemagne. Donc, ce n'est pas l'Alternative pour l'Allemagne qui est derrière ces actes. Mais c'est un parti qui a des positions extrêmement xénophobes, anti-immigrés, donc ça concourt à une atmosphère. Or, ce parti vient de se voir légitimé dans les urnes ces dernières années. Donc tout ça fait que c'est très favorable à ces actions, n'importe quel déséquilibré peut passer à l'acte. Mais quand même, en-delà de cette histoire spécifique de néo-nazisme, il y a quelque chose qui se passe à travers le monde entier. Il y a des suprémacistes blancs qui tuent des musulmans, des juifs, des socialistes, si je prends le massacre en Norvège. Donc il y a quelque chose de plus grave, qui est une réaction à la mondialisation, qui est le repli sur ses frontières. Et la mondialisation en même temps fait qu'on a des modèles un peu partout. Ils se citent entre eux, ces gens qui massacrent, que ce soit à Pittsburgh, à Christchurch ou à Hanau. Donc la situation est extrêmement préoccupante et elle dépasse le cas allemand, même si ça prend une portée symbolique terrible, parce que c'est l'Allemagne.
Oui, mais à double niveau, si on continue à s'intéresser à ce cas allemand, parce que d'abord, cette reconnaissance qui vient justement couronner une histoire, comme vous le dites, qui n'est pas neuve, qui n'est pas... l'Allemagne ne découvre pas la violence d'extrême droite, mais par contre, elle découvre dans la bouche de son chef d'État, d'Angela Merkel, la reconnaissance de cette historique-là, et pas seulement d'un passé, d'une actualité. Donc on peut dire que aussi, il y a quand même une digue qui là aussi saute, mais dans le sens de la reconnaissance, de dire que l'Allemagne elle-même dit aujourd'hui, et peut-être que on peut comprendre enfin, comment vous voyez cette difficulté qui a été celle à nommer jusque-là, finalement, ce mal ou cette peste noire brune, comme d'autres l'appellent.
Je pense que Angela Merkel l'a nommée et que c'est donc au plus haut sommet de l'État. Mais depuis que ces actions extrémistes existent, vous avez eu des défilés de citoyens, des organisations, des associations de gauche et d'extrême gauche qui ont clamé haut et fort que le poison était revenu. Donc bien sûr, c'est plus important parce que c'est Angela Merkel, mais cela fait longtemps qu'il y a en Allemagne des citoyens et des citoyennes qui se battent au quotidien pour dénoncer le retour de ses comportements et de ses actes.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.
Et c'était Nona Maier, directrice de recherche émérite au CNRS et rattachée au Centre d'études européennes de Sciences Po. Et après la pub, la météo de Sylvie, RCJ, il est 8h24.
Vous faites votre alia. Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Demeco s'occupe de tout.
Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés, assurance tout risque, véhicules.
Solutions de stockage pour courte et longue durée en nos dépôts ultra sécurisés.
Sonigo Déménagement Demeco, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches.
Sonigo Déménagement Demeco au 01 76 54 92 92
sur le www.sonigo.eu
ou sur le numéro gratuit 0800 900 111.
Steve Suissa, parrain du MDA France.
Je vous donne rendez-vous dimanche 8 mars au Centre européen du judaïsme, dans le cadre d'un événement qui associe art, générosité et Israël. L'art pour la vie est une exposition qui présente 120 œuvres d'artistes israéliens. Tous les profits des œuvres vendues seront reversés au Magen David Adom, service des urgences médicales en Israël, une organisation que je suis fier de soutenir.
L'art pour la vie, dimanche 8 mars, Centre européen du judaïsme, place Jérusalem, Paris 17e. Information 06 19 77 22 91 avec le concours du Bnei Brit Loge Ben Gourion.
Bonjour à tous. À Paris, un ciel très nuageux en matinée, de nombreuses averses possibles en journée, de fortes rafales de vent, côté température entre 7 et 11 degrés. À Lyon, ce sera un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies le matin et des visibilités réduites. Et des pluies faibles suivies d'averses l'après-midi, 11 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv, il fera beau ce matin, mais des pluies s'annoncent dans l'après-midi, 18 degrés maximum. Bonne journée sur RCJ.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur RCJ. Dans quelques instants, à 8h30, c'est Judaïque FM qui prend le relais. RCJ revient sur le 94.8 à 11h pour un nouveau point sur l'information et les mensuelles histoires d'Annette Viviorca, à naître soit aujourd'hui Bénédicte Vergès-Chaignon. Pour son livre, Une juvénile fureur, Bonnier de la Chapelle, l'assassin de l'amiral Darlan, paru aux éditions Perrin. Je vous donne rendez-vous quant à moi à midi pour le journal et l'émission de Luce Perrot, Lire la politique, qui accueille à 12h30 Jean-François Kahn pour son livre « Droit dans le mur », une considération sur le spectre néofasciste qui menace la France. Bonne journée à toutes et tous sur RCJ, on se quitte en musique, mais à tout à l'heure j'espère.
Le journal vous a été présenté par Best Fenêtres, entreprise certifiée RGE. Bénéficiez des aides de l'État sur vos fenêtres, porte-volets, devis gratuits et sans engagement. 01 43 61 31 16.
Let's do it one more time.
Classique.